Alors, Hélène Schlautre, nous sommes environ à un mois des élections de l'Assemblée constituante de Tunisie, hein, les élections qui se sont déroulées comme on l'avait décrit dans de très bonnes conditions. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la situation institutionnelle de la Tunisie?
Alors, il y a une dizaine de jours, l'Assemblée constituante, donc issue directement du résultat des élections du 23 octobre, s'est installée officiellement et s'est dotée d'un président. Voilà, c'est Mustapha Ben Jaafar du parti social-démocrate Etakatol. Et les discussions politiques sont en cours entre ce mouvement, Etakatol, Ennahda, qui est le parti islamo-conservateur qui a remporté, on s'en souvient très largement, les élections, et le parti de Monsef Marzouki, Congrès pour la République. Donc on est en train, en fait, ils sont en train, ces formations sont en train de discuter la répartition des pouvoirs. Donc il semble qu'à ce niveau, il y ait un accord pour que Monsef Marzouki soit président de la République tunisienne. Mustapha Ben Jaafar est donc déjà élu comme président de l'Assemblée constituante et Ennahda, à travers M. Djebali, pourrait donc obtenir dans cet accord le poste de Premier ministre. Et là, qu'est-ce qui est en discussion là en ce moment? C'est les compétences et pouvoirs respectifs, notamment celui du président de la République, parce que Monsef Marzouki n'a pas l'intention d'être un président potiche. Et également la répartition des portefeuilles au sein du gouvernement. Et ça, c'est très, très, très important parce que il y a un défi absolument toujours visible par les manifestations très nombreuses qui continuent en Tunisie, un défi économique et social. Il n'est pas certain que les démocrates et les sociaux-démocrates aient accepte d'assumer seule la responsabilité des questions économiques et sociales sans que Ennahda ne prenne part à cela. Il semble que Ennahda veuille absolument garder entre ses mains des postes régaliens qui sont décisifs pour installer la démocratie et l'état de droit, c'est la justice et l'intérieur. Et donc c'est ça qui est en train de se discuter en ce moment et c'est capital hein, parce que moi, je n'ai pas senti qu'en discutant avec le futur Premier ministre, qu'il aurait un agenda extrêmement ferme et rapide sur la réforme du ministère de l'Intérieur. Et il faut savoir quand même, parce qu'on a eu des témoignages de cela, c'est que les pratiques anciennes continuent. La torture continue, il y a toujours des cas de torture. Il y a des cas extrêmement inquiétants où on avait encore l'impression d'être sous le régime de Ben Ali, c'est-à-dire des forces de sécurité appuyées par une propagande de télévision a priori libérée, mais néanmoins toujours aux ordres d'un noyau dur. Donc les forces de sécurité de l'ancien système sont encore aux manettes. C'est-à-dire que les enjeux sur la réforme de ses forces et donc sur le gouvernement au poste de ministre de l'Intérieur sont extrêmement importants. On parle du bâtonnier actuel des avocats qui pourrait obtenir ce poste. Donc ce serait peut-être une perspective d'accord pour les trois formations politiques principales qui seront parties à ce gouvernement. Voilà, les discussions ont lieu autour de ça en ce moment.
Alors vous avez rencontré Monsef Marzouki, qu'on présente comme étant le futur président de la République et qui représente, en tout cas vu de l'extérieur, le point d'appui de la société civile pour un État démocratique qui soit indépendant donc par exemple du pouvoir religieux. Quelle est l'analyse politique de la situation qu'il fait de la Tunisie et de ses évolutions possibles?
Lui, Monsef Marzouki, il est toujours très droit dans ses bottes concernant l'état de droit et les libertés fondamentales. Et donc, il souhaite être un président doté d'un Conseil des droits de l'homme avec une capacité d'observation de la situation des libertés fondamentales et d'interpellation sur ce sujet. Et manifestement, ces fonctions qu'il ambitionne autour des libertés fondamentales de l'état de droit sont encore en discussion. Donc finalement, il n'a pas changé. Et il dit très simplement qu'avec l'histoire qu'il a, et c'est vrai que c'est quand même une longue vie de bataille intraitable, puisque déjà en 1999, Moncef Marzouki était quelqu'un qui, à contrario de beaucoup, qui se plaignait de ne pas avoir les autorisations, de ne pas pouvoir manifester, etc. Lui, il disait, moi, je ne demande rien à Ben Ali et à son régime, je ne demande pas l'autorisation de manifester, je manifeste, etc. Dites parler, je parle, etc. Donc, il a gardé cette forme d'entièreté, de radicalité très forte sur les questions de droits de l'homme. A priori, son mouvement, donc, y compris lui à sa tête, aurait négocié un poste pour la réforme des administrations. Donc ce serait une fonction, un ministère transversal qui pourrait atteindre justement la question dont je parlais de la réforme au ministère de l'Intérieur, très importante aussi la réforme dans le ministère de la Justice. Voilà, donc je crois qu'il va être extrêmement vigilant là-dessus. Lui, il pense que il faut aller au gouvernement. Il pense que Ennahda et que les critiques qui sont adressées à Ennahda sont souvent extrêmement mal formulées parce qu'elles atteignent finalement des espèces de fantasmes autour de ce parti dit islamiste et agitent un peu les épouvantails bien connus, le foulard, l'alcool, la barbe, etc. Bon, sans que d'actes concrets et de positions établies n'aient été portés par Ennahda. Donc lui, il dit, mais voilà, moi, je ne peux pas empêcher les gens de crier au loup, mais moi ce que je vais faire c'est critiquer Ennahda sur la base de sa politique. Voilà, c'est un parti musulman, c'est un parti conservateur, et c'est en tant que ça qu'on doit le critiquer, et voilà, ça marque aussi ce qu'il comprend des limites de l'accord qu'il passe avec Ennahda aussi.
Alors vous avez aussi rencontré des associations de femmes, des syndicalistes, alors d'une certaine manière, vous avez un certain écho de ce que pense ou de comment réagit la société civile, enfin la base de la révolution démocratique. Quel est le sentiment un peu chez ces gens ?
Bah, moi, je trouve que mes amis, entre guillemets, c'est-à-dire les gens que je voyais le plus et que j'ai beaucoup soutenu, que j'ai fait venir au Parlement, etc., on va dire la gauche démocrate, en fait. Hein, je trouve que pour la plupart, ils sont, dans la société civile, un peu perdus, un peu désarçonnés. C'est-à-dire que bah, le résultat des élections apporte évidemment une obligation de reformuler une stratégie d'implantation, de mobilisation, etc. Et donc, beaucoup d'associations se posent la question de leur implantation dans les différentes provinces. Et on commence ce travail. L'Association tunisienne des femmes démocrates, par exemple, fait ce travail d'aller ouvrir des locaux, discuter, former, monter des comités de femmes dans toutes les provinces de la Tunisie. Donc ça, je crois que c'est très bien. Et puis, je pense qu'il faut vraiment forcer la main parce que la question autour des femmes est principale parce qu'elle est instrumentalisée dans le débat politique entre, soi-disant, les femmes modernes occidentales attachées aux libertés, à la démocratie, aux droits de l'homme, qui n'auraient pas de foulard, et les autres, quoi. Et on voit, et donc il y a moult histoires, enfin pas tellement d'histoires, mais beaucoup de gens racontent des histoires. Ces histoires sont en général, si on enlève un peu le fond, on se rend compte que c'est finalement la même histoire. Donc c'est par exemple l'histoire de femmes qui sont conspuées dans une manifestation parce qu'elles portent le foulard, et d'autres vous racontent qu'une prof de fac a été conspuée parce qu'elle ne porte pas le foulard. Enfin bon, manifestement, c'est la question du foulard est une mauvaise question, c'est évident. Elle est totalement instrumentalisée dans le débat. Et les associations pour la promotion des femmes doivent absolument trouver une plateforme commune pour formuler des revendications auprès de l'Assemblée constituante. Parce que c'est ça le boulot de l'Assemblée constituante. Ça, c'est une question importante. Est-ce que l'égalité entre les hommes et les femmes sera inscrite telle qu'elle dans la Constitution ? La Tunisie a ratifié la Convention internationale pour l'élimination de toutes les discriminations sans réserve. Ça veut dire que ça suppose que cette égalité soit inscrite, mais on voit bien que ça ne va pas être forcément si simple. Voilà, et donc les femmes doivent, au-delà de l'instrumentalisation qui est faite autour du foulard et du soi-disant retour en arrière, la femme au foyer, etc., elles doivent trouver une base commune pour porter des revendications auprès de l'Assemblée constituante. Et si pas commune, mais au moins avoir le débat ensemble en arrêtant de se laisser représenter par le camp adverse, quoi.
Dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que le mouvement social en Tunisie, mouvement syndical par exemple, les grèves, et puis les capacités de mobilisation de la société à travers des formes d'auto-organisation. Est-ce que vous avez le sentiment que tout cela est encore très vivant?
Bah dans le centre du pays, moi quand j'étais à Tunis, donc il n'y a pas très longtemps, il y avait des manifestations très importantes à Kasserine. Il y avait le couvre-feu même qui avait été réinstallé à Kasserine. La semaine précédente, il y avait des manifestations à Gafsa. Et puis les semaines après les élections, là, on s'en souvient, il y a eu des nombreuses manifestations à Sidi Bouzid pour contester l'annulation d'une liste électorale. Donc ça veut dire que ça bouge toujours beaucoup. Est-ce que parce que ça bouge beaucoup, il y a une capacité renforcée par rapport à l'époque de la Révolution de s'auto-organiser, par exemple dans les comités populaires, en répartissant entre soi les fonctions municipales, par exemple, sur la gestion de tel ou tel aspect de la vie collective. Ça, je crois que c'est un peu... enfin, je pense que ça a été un peu mis en suspens par les élections elles-mêmes, parce que finalement, voilà, il y a une nouvelle étape qui s'ouvre maintenant. Et la participation très massive des Tunisiens à ces élections montre que voilà, ils espèrent aussi dans cette nouvelle phase. Donc peut-être que ça a rétroagi sur leur mode d'organisation à l'échelle locale.